Voilà, ça va.
Ça va bien.
Ok. Seigneur, ce matin, une fois de plus, nous sommes devant toi. Et je te remercie de ce que tu as mis sur le cœur de Priscille. Je te demande de la bénir durant ce moment de prédication. Qu'elle ait aussi de la joie à la portée, que nous ayons aussi des oreilles attentives, un cœur qui entend ce que tu as à nous dire, Seigneur. Merci de pouvoir de nous présenter ainsi devant toi. Bénis particulièrement Priscille au nom de Jésus. Amen.
Oh, ça tombe. Voilà. Alors, le message que j'ai, le titre du message d'aujourd'hui, basé sur le chapitre 2 de Ruth, l'ai intitulé « Un homme providentiel ». Alors, comme on l'a vu la dernière fois dans le chapitre 1, ça fait plusieurs années que Naomi, elle se sent abandonnée de Dieu. Elle est revenue dans son village, mais elle est complètement misérable, elle est complètement dépouillée. Alors, elle a bien encore la foi que Dieu peut faire quelque chose pour ses belles filles. Mais en ce qui la concerne, Dieu, il est responsable de l'amertume qui l'a remplie tout entière. Dieu, il est celui qui l'a ramené les mains vides à Bethléem. Et son vécu de ces dernières années est tellement douloureux. Il y a eu la mort de son mari qui était dramatique, et puis après, la mort encore plus intolérable de ses deux enfants. Et vous ajoutez à cela que ces événements, ils se sont déroulés dans un environnement hostile, un environnement caustique, un environnement qui est dominé par un faux dieu cruel, sanguinaire, le dieu Chemosh, le dieu de Moab. Un dieu non seulement mangeur d'enfants, mais un dieu aussi mangeur de l'espoir de Naomi que Dieu agit pour elle. Et alors dans sa vie est venu s'installer un sous-fifre du Dieu, de ce Dieu Chemosh, c'est le Dieu amertume. Et ce Dieu amertume, il est tellement profondément installé en elle que quand on arrive à la fin du chapitre 1, on peut se demander si ce Dieu amertume va pouvoir être délogé de la vie de Naomi. Et c'est sur ce constat que commence le chapitre 2. Et nous allons maintenant laisser Naomi de côté pour un petit moment et nous allons faire la connaissance avec quelqu'un d'autre dans cette histoire, Boaz. Alors Boaz, comme je l'ai suggéré dans le titre, c'est un homme providentiel, un homme qui vient croiser la route de Naomi et de Ruth. Alors dans la première partie de ce message, je me demande, dans quel sens Boaz est cet homme providentiel? Est-ce qu'il est providentiel parce que c'est la chance ou parce que c'est Dieu qui conduit Ruth dans le champ de Boaz? En effet, c'est dans ce sens, dans ces deux sens qu'on peut comprendre le terme providentiel. Alors, dans les quatre chapitres de Ruth, deux fois l'intervention directe de Dieu est mentionnée. Une fois dans le chapitre 1, une fois dans le chapitre 4, mais pas à cet endroit. Si on lit dans le texte en français, la seule chose qui nous est dit, il se trouva que la parcelle appartenait à Boaz. La parcelle dans laquelle elle s'est retrouvée, c'était le champ de Boaz. Et c'est là que c'est intéressant d'aller regarder dans le texte en hébreu. Sa chance la conduisit par chance dans le champ de Boaz. Alors, vous vous rappelez peut-être la dernière fois ce que Nicolas avait dit. Le narrateur de Ruth, il aime beaucoup recourir à l'ironie. Et là, ce n'est pas une exception. En attribuant de manière excessive le fait que Ruth se trouve dans le champ de Boaz à la chance, c'est comme si, on peut l'imaginer, entamer un discours avec Naomi. Hé, Naomi, est-ce que tu es vraiment sûre que c'est uniquement la chance qui a conduit Ruth dans ce champ? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a abandonné? C'est comme si le narrateur criait, « Mais Naomi, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui l'a conduit là. C'est pas le hasard, c'est pas la chance. Boaz est un homme providentiel parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel Dieu agit. Et nous, occidentaux du 21e siècle, vivons à Lausanne. Dans notre compréhension du monde que l'on conçoit comme essentiellement régi par les lois de la physique, il nous est aussi souvent difficile de concevoir un Dieu qui agit et qui intervient dans le cours de l'histoire. Notre vision du monde est rationnelle. La physique, notre physique, se passe de Dieu. Notre biologie se passe de Dieu. Notre sociologie se passe de Dieu. Notre histoire se passe de Dieu. Notre psychologie se passe de Dieu. Notre philosophie se passe de Dieu. Et parfois même, notre manière de concevoir l'Église et la foi se passe de Dieu. Alors, on peut aussi imaginer le narrateur qui nous crie aujourd'hui. Et vous, occidentaux, vous avez vu comment Dieu a conduit Ruth dans le champ de Boaz? Êtes-vous sûr que votre manière rationnelle de regarder à la vie tient le coup? Et si vous remettiez Dieu à la place qui lui revient, quelqu'un qui a la puissance d'intervenir aujourd'hui, certes pas forcément comme vous l'entendez, mais quelqu'un qui intervient réellement. Si vous arrêtiez d'être juste des gens qui croient et qui dans la vie courante vous comportez comme des athées, comme si Dieu n'existait pas. Alors oui, Boaz, c'est un homme providentiel parce que Dieu est derrière le cours de l'histoire et en particulier parce que Dieu s'intéresse à la vie d'une belle-mère et de sa belle-fille, toutes les deux veuves. Toutefois, en affirmant cela, je n'ai pas tout dit par rapport au fait que Boaz est un homme providentiel. Et là, j'en arrive à la deuxième partie du message. Qu'est-ce qui fait que Boaz est un homme providentiel sur la route de Ruth et de Naomi? Pourquoi c'est lui et pourquoi c'est pas Pierre ou Jacques qui possèdent les champs juste à côté de celui de Boaz? Qu'est-ce qui fait la providentialité de Boaz? Non seulement providentiel dans le sens que Dieu a conduit Ruth dans son champ, mais aussi providentiel dans le sens qu'il pourvoit aux besoins de Ruth et de Naomi dans ce chapitre. Pourquoi Boaz a-t-il fait preuve de générosité envers Ruth? Est-ce qu'il était bien luné ce jour-là? Ou bien est-ce qu'il partait en vacances la semaine d'après, puis ça le mettait en joie, du coup il était généreux? Ou bien est-ce que la récolte était tellement abondante cette année-là qu'il se disait, oh, je peux bien laisser une fois glaner, c'est dans la loi de Dieu, je vais le faire cette année? Ou bien encore, est-ce que Dieu l'a utilisé en dépit de lui-même? Est-ce que Dieu l'a transformé en un robot exécutant un ordre divin de se montrer généreux envers Ruth? Mais dans le fond, en fait, lui, Boaz, c'est pas quelqu'un de particulièrement généreux, pas quelqu'un de particulièrement tourné vers l'autre. Alors pour répondre à cette question de qu'est-ce qui fait que Boaz s'est montré généreux, j'aimerais lire la manière dont il salue ses ouvriers au début du chapitre. Alors comme vous le savez, Ruth, c'est un livre extrêmement condensé. Et le fait que le narrateur prenne le temps d'utiliser tout un verset pour nous dire la manière dont Boaz salue ses ouvriers, c'est que ce verset a de l'importance, c'est que ce verset va nous dire quelque chose sur Boaz. Je lis. « Or Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Les premiers mots que Boaz prononce montrent un homme habité par Dieu. Il désire procurer un environnement de travail positif à ses employés, un environnement où Dieu est présent. Et dans ce chapitre, toutes les paroles qu'il prononce, on l'a entendu avant, elles sont empreintes de grâce. Dieu est présent dans sa vie et son désir est que Dieu puisse être présent dans la vie de ses employés. et aussi comme nous allons le voir maintenant dans la vie de Ruth. Alors concrètement, qu'est-ce qui fait en faveur de Ruth ? En la laissant glaner dans son champ, il accomplit la loi de Dieu. On peut lire dans la loi mosaïque, dans Lévitique, au chapitre 19, au verset 9 et 10, la chose suivante. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La loi que Dieu a donnée à son peuple n'est pas uniquement une loi du bien vivre ensemble. Ce n'est pas juste une loi qui prône le respect de tous. Ce n'est pas une loi uniquement écrite pour éviter qu'on se déchiquette les uns les autres. C'est une loi qui va bien au-delà de ça. Par exemple, la loi mosaïque, elle se montre particulièrement compatissante envers l'étranger, la veuve, l'orphelin. Elle enjoint une attitude proactive qui prend soin de ceux qui sont dans l'incapacité de prendre soin d'eux-mêmes. Et ça, elle le fait, mais pas juste une fois, mais bien des fois, si vous les relisez les 5 premiers livres de la Bible. Et je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi la manière dont le verset dans le Lévitique se termine. « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Pourquoi dois-tu pourvoir à la subsistance de celui qui est dans le besoin ? Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. La loi de Dieu est une loi basée sur qui il est, lui. Et sa loi, elle appelle son peuple à devenir rien de moins que qui il est pour ceux qui nous entourent. Dieu est saint, nous sommes appelés à être saints. Dieu est un Dieu de compassion. Nous sommes appelés à faire preuve de sa compassion envers ceux qui nous entourent. Et là, je vais ressortir un mot hébreu que vous avez déjà entendu la dernière fois avec Nicolas. C'est le mot « chesed ». Dieu est le Dieu du chesed, un amour fidèle, généreux, surabondant, immérité. Nous sommes appelés à faire preuve de ce même amour généreux, fidèle, surabondant, immérité. Alors, envers qui on est appelé à faire preuve de ce chesed ? Et là, je crois que plus de 1000 ans avant l'histoire du bon samaritain, Boaz nous montre la voie. Il manifeste la bonté de Dieu, certes, envers ses employés, des gens qu'il côtoie tous les jours, mais aussi envers Ruth, l'étrangère, cette femme issue d'un peuple détesté, méprisé. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si on regarde ce deuxième chapitre de Ruth, toutes les paroles de Boaz sont empreintes de grâce envers Ruth. Toutes les paroles de Boaz sont empreintes de la grâce de Dieu envers Ruth. Pourquoi ? Parce que le caractère de Boaz reflète le caractère de Dieu dans sa manière de se comporter avec Ruth. Et on peut même aller plus loin. L'amour est fidèle et surabondant de Dieu, le recette de Dieu, s'incarne dans la vie de Boaz. Et un commentaire que j'ai lu pour aujourd'hui avait ces termes très forts. Il disait « L'amour de Dieu est fait chair en Boaz. » En fait, comme je l'ai dit avant, vous voyez, la loi de Dieu, ce n'est pas juste une loi du bien vivre ensemble. Elle est issue de la volonté de Dieu que nous puissions incarner son amour, son caractère envers ceux qui nous entourent. Et si nous pouvons incarner le caractère profondément généreux de Dieu, c'est que premièrement, nous avons été créés à son image, à l'image d'un Dieu d'amour. Et deuxièmement, nous qui venons après Christ, si nous pouvons incarner le caractère profondément généreux de Dieu, c'est parce que Christ a restauré cette capacité en nous. C'est par le sang de Christ que nous avons été restaurés à notre Père céleste. Profondément touchés, nous, par son amour fidèle, généreux, surabondant, immérité. Et c'est seulement en conséquence de cette restauration que nous sommes capables de refléter le caractère de Dieu dans nos relations. C'est seulement rempli par son esprit que nous sommes capables de refléter son caractère dans nos relations. Parce que Christ a permis que la loi de Dieu soit inscrite dans nos cœurs. Alors oui, à notre tour, nous pouvons être des boses pour ceux qui nous entourent. Nous avons été restaurés et nous pouvons devenir des agents de restauration. Nous pouvons être des hommes et des femmes providentielles, envoyés par Dieu parce que transformés par Dieu. Et on peut même dire que c'est la mission dans laquelle Dieu appelle son peuple, son Église, nous l'Église de Villars. Mais, autre question, quels sont les gestes d'hommes et de femmes providentiels et envers qui ces gestes s'exercent-ils? Alors, dans ce chapitre, j'ai été très touchée par les gestes de Bose. Et pour terminer cette deuxième partie, sur ce qui fait de Bose un homme providentiel, j'aimerais vous mentionner deux choses. La première chose, Bose use de bonté envers une étrangère, une Moabite, quelqu'un de détesté, issu d'un peuple détesté. Et c'est là que l'on reconnaît vraiment sa capacité à incarner l'amour de Dieu. Cet amour, il n'est pas adressé à quelqu'un qui fait partie de la famille de Bose ou de son cercle d'amis ou de ses collègues, de son cercle professionnel. Cet amour, il est adressé à une pauvre inconnue. Quelqu'un qui, a priori, ne pourra jamais le lui rendre. Cet amour, il franchit les barrières sociales. Cet amour, il va au-delà de tout préjugé racial. Et cet amour, il le conduit vers quelqu'un à qui, a priori, il ne doit rien. Parce que l'amour de Dieu, dans sa nature même, elle conduit vers l'étranger, quel qu'il soit. Regardez tous les étrangers que Christ a rencontrés et qui se sont trouvés transformés par cette rencontre. Il y a Zachée, il y a Bartimée, il y a Jaïrus, il y en a tellement d'autres. Tous les étrangers que les apôtres ont rencontrés et qui se sont trouvés transformés par cette rencontre. J'ai pensé à l'eunuque, à Corneille, à Lydie, aux gardiens de prison. Il y a tellement d'étrangers dans la Bible que l'on trouve et que Dieu, qui se trouve transformé par une rencontre avec l'amour de Dieu. Alors, qui sont les étrangers que Dieu conduit à nous? Est-ce que nous avons été touchés par l'amour de Dieu au point de vouloir incarner cet amour auprès d'eux? Est-ce que nous les voyons? Alors, il y a des gens dans cette assemblée qui les voient, c'est impressionnant. Enfin, si vous avez la même sensibilité que Pierre Glor, Jocelyne Steiner qui est aux États-Unis ou bien alors Nicolas, c'est sûr vous les voyez, il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai de la peine. J'ai le regard souvent tellement absorbé par tout ce que je dois faire que je ne les vois pas. Et c'est vraiment en priant. Ces dernières années, j'ai souvent fait la prière, mais Dieu conduit vers moi quelqu'un que tu veux que j'aime. Parce que moi, j'ai de la peine à voir. Et c'est incroyable parce que Dieu, il a toujours répondu à ma prière. Il a toujours amené vers moi une femme. Plusieurs femmes il a chaque fois répondu à cette prière en amenant des femmes qui avaient besoin de l'amour de Dieu dans leur vie. C'est des femmes que je ne connaissais pas. Et puis c'est avec l'amour de Dieu, la loi de Dieu bien imparfaitement inscrite dans mon cœur que je me suis approchée d'elles et qu'elles sont devenues des amies précieuses. Mais j'ai toujours été impressionnée comme Dieu y répondait à ma prière quand je lui faisais celle-là. La deuxième chose qui me touche à propos de la providentialité de Bose Et là, il faut que je précise, je m'intéresse uniquement à ce qui se passe dans ce chapitre-là, le chapitre 2, pas dans le chapitre 3 ou le chapitre 4. Mais les gestes que Bose a et qui incarnent l'amour de Dieu dans ce chapitre, a priori, ils ne lui coûtent pas grand-chose. Il permet à Ruth de glaner dans son champ. Ses ouvriers à lui, ils vont lui récolter bien quelques tonnes d'orge et de blé. Et vraiment, les quelques kilos que Ruth peut glaner, ce n'est pas grand-chose. En comparaison, ça pèse pas lourd. Et toujours dans les gestes qui lui coûtent pas grand-chose, Bose va au-delà de ce que la loi mosaïque lui demande. Il permet à Ruth d'être en sécurité dans son champ. Et de nouveau, qu'est-ce que ça lui coûte? Lui, ça lui coûte une parole. Il demande à ses ouvriers de ne pas toucher Ruth. Et toujours dans ces gestes qui lui coûtent pas grand-chose, eh bien, Bose, il s'intéresse à Ruth. Il s'intéresse à sa condition de travailleuse dans un champ en plein soleil toute la journée. Il lui permet de boire, il lui permet aussi de se ravitailler, il lui procure à manger à midi. Et puis toujours, dans ses gestes qui ne coûtent pas grand-chose à Bose, il va au-delà du simple fait de pourvoir aux besoins de base de Ruth. Il lui parle avec bonté. Il ne lui donne pas juste l'autorisation de glaner, de manger, de boire, il la considère. Alors c'est vrai, incarner l'amour de Dieu, ça peut être extrêmement coûteux. Et la vie de Christ ne le rappelle puissamment à quel point ça peut être coûteux d'incarner cet amour. Mais nous oublions aussi parfois que incarner l'amour de Dieu, cela peut se faire dans les fêtes et les gestes tout simples de la vie quotidienne. J'en arrive à ma troisième partie. Alors, quel est le résultat de ce hesed de Bose, cet amour généreux, immérité et qui va au-delà des devoirs? Alors, comme je l'ai dit avant, tout d'abord, Bose, il permet à Ruth et à Naomi de pourvoir à leurs besoins. Et ça, c'est pas rien pour deux veuves à l'époque où l'histoire est racontée. Mais ce n'est pas tout. Bose, il prononce des paroles qui consolent Ruth, qui la relèvent, qui la mettent au large, qui lui redonnent sa dignité de femme, au-delà même de sa misère et de sa condition d'étrangère. Et les paroles de Ruth sont magnifiques. Elle dit « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée et tu as parlé au cœur de ta servante. » Et c'est pas tout. En fait, le plus beau, il est pour maintenant. Vous vous rappelez Naomi, dans quel état on l'a laissée au début du message? Enfermée dans une tour qui était épaisse de 3 mètres d'amertume, brisée, vidée de tout espoir. Mais quelles sont les paroles de Naomi quand elle revoit sa belle-fille revenir des champs, quand elle voit sa belle-fille revenir des champs avec un gros sac d'orge sur les épaules. Et là, je lis dans le texte. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Bose, dit-elle. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. » Vous avez entendu ces paroles? Qu'il soit béni de l'Éternel, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Vous sentez le changement qui s'opère en Ruth? Est-ce que vous voyez les murailles d'amertume qui se fissurent, qui s'effondrent? Naomi, elle loue Dieu. Elle parle du hesed de Dieu, c'est ça que traduit le mot bonté dans notre texte en français, qui garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts, qui garde son hesed pour les vivants comme pour les morts. Naomi, elle a reconnu le hesed de Dieu, l'amour de Dieu au travers de l'amour de Bose. L'amour de Bose a bel et bien incarné l'amour de Dieu dans la vie de ces deux femmes. Le hesed de Dieu s'est bel et bien fait chair en Bose. Et quel est le résultat? Mais cet amour, il produit quelque chose. L'amour généreux de Dieu, incarné dans l'amour généreux de Boaz, est fertile. Il permet à deux affamés de manger à leur faim. Il console. Il met au large. Il redonne sa dignité à Ruth. Il redonne aussi espoir à Naomi. Et puis un esprit de louange qui reconnaît la bonté de Dieu, qui reconnaît que Dieu agit dans sa vie. Malgré toutes les fois où les pensées de Naomi n'ont pas été celles de Dieu, comme a parlé Jean-Jacques la dernière fois. Malgré toutes les fois où elle n'a pas compris ce qui se passait. Elle reconnaît que Dieu est là. Et le hesed de Boaz dans cette histoire, il est un signe du fait que Dieu, il agit dans le monde. Boaz, c'est un homme providentiel. Premièrement, parce que Dieu a conduit Ruth dans son champ. Mais deuxièmement, et surtout, parce que l'amour surabondant et généreux de Dieu se reflète dans tous ses gestes, redonnant une subsistance, un espoir et une envie de louer Dieu pour qui il est, comme celui qui agit et qui intervient. Alors j'aimerais conclure. Chers amis, quelle est la loi inscrite dans nos cœurs? Est-ce que c'est celle du bien vivre ensemble, du respect de l'autre, celle qui accommode relativement bien notre vie individualiste, celle qui peut facilement passer à côté de celui dans le besoin sans réellement le voir, celle qui peut être responsable de bien des stérilités, celle qui peut être responsable aussi de bien des interrogations quant à la présence d'un Dieu qui agit et qui intervient, un Dieu d'amour. Quelle est la loi inscrite dans nos cœurs? Est-ce que c'est celle de Christ que Christ a inscrite dans nos cœurs et qui reflète le caractère de surabondante générosité de Dieu et qui produit du fruit en abondance à tel point que les cœurs sont transformés, relevés, se tournent à leur tour vers Christ et louent le loup pour qui il est? Alors incarner l'amour de Dieu, refléter son caractère autour de nous, pas seulement envers nos frères et sœurs, mais envers les étrangers de nos vies, quels qu'ils soient. Voilà la mission de l'Église. Dans un monde où Dieu a souvent été relégué au niveau des contes de fées, et alors que nous n'avons pas besoin, ou nous pensons que nous n'avons pas besoin de Dieu pour expliquer notre monde et nos vies. C'est en incarnant ce hesed autour de nous que nous montrerons que Dieu est là et qu'il agit par son amour.